puis c'est jardin suspendu, bien c'est la marque de fabrique.
Plus on se rapproche des plantes, plus on a encore envie de s'approcher, et quand on rentre dans la nature, c'est tellement immense.
Et là, ça a été le départ d'une vraie aventure.
Les jardins suspendus, Olivier Horry.
Bonjour, je suis heureux de vous retrouver cette semaine encore dans les jardins suspendus pour quelques mots et quelques notes. Cette semaine sera un petit peu politique. Je ne sais pas exactement pourquoi, c'est comme ça, une humeur de saison, nous le disons souvent. Le peuple est d'une ardeur sauvage quand il juge les souverains. Qu'il porte au nu un dictateur ou qu'il décapite un roi, c'est tout un, il adore. Mais le peuple manifeste-t-il un tel zèle s'il s'agit de prendre une vue de lui-même, de se faire un avis sur son cas ? Ce serait de bonne guerre, puisqu'en démocratie, il est lui-même le souverain et n'en est pas peu fier. Il porte ses couleurs, supporte son équipe de football, admire son armée qui défile, ses chanteurs, ses acteurs et jusqu'à sa cuisine. Mais un peuple peut-il se faire une idée de lui-même ? Peut-il se faire une représentation de sa propre allure ? A-t-il une pensée, une réflexion ou seulement une parole ? Peut-il vraiment se prononcer ? Car qu'est-ce qu'un peuple finalement ? Une masse d'individus plus ou moins dispersés, plus ou moins rassemblés dans les limites de frontières arbitraires. Les frontières politiques sont arbitraires, aussi peu raisonnables qu'une tuile tombant sur la tête d'un passant, car les frontières sont, comme la chute d'une tuile, le fait de rapports de force successifs dénoués au hasard. La démographie calcule un peu cet animal énorme qu'est le peuple dans ses limites territoriales. Elle prend ses mensurations et le qualifie en nombre, genre et profession du père. La démographie va donner des âges, des revenus, des maladies et des causes de mortalité. Mais toutes ces sommes ne font pas une personne morale, raisonnable, en faculté de juger et qui plus est, ça n'est pas rien, de se juger elle-même. Pouvons-nous attendre une réflexion d'une masse par ailleurs notoirement incapable de maîtriser par exemple la contraception, le transport routier et le tri des déchets ? Que pouvons-nous attendre en matière de calcul et d'analyse morale et politique d'une foule favorable majoritairement à la peine de mort et même capable d'y voir l'exercice d'une justice suprême ? Toutefois, là où l'intelligence peut parfois faire défaut, nous pouvons rencontrer une solide volonté, comme nous disons un solide appétit. Si ce n'est une volonté, au moins une tendance, une faculté, un mouvement. Il y a une volonté populaire. Le peuple tient au pouvoir d'achat. Il aime à consommer, surtout de l'essence et des images mobiles. Le peuple suit ceux qui leur en proposent à pas cher et leur en promettent davantage. Ce n'est pas pour rien que nous appelons ces derniers des démagogues, du grec agos, conducteur, en allemand Führer. C'est le sempiternel miroir aux alouettes, hypnotique, narcissique, épileptique. Le démagogue, conducteur du peuple, est le miroir dans lequel le peuple se reconnaît, dans lequel il s'adore. Le démagogue produit, comme la fleur un parfum ou la pierre un éclat, des images aliénantes pour ceux qui le regardent et pour ceux qui l'écoutent. Mais c'est à lui-même que le peuple s'aliène quand il admire le charisme de son polichinelle. C'est le guignol pathétique, mais dangereux au-delà de toute mesure, qui règne sur une masse compacte dans le totalitarisme. Si bien que nous avons raison de voir dans la démocratie le nid où peuvent idéalement prospérer à la fois la tyrannie d'un seul et celle de la majorité.
Born in a troubled city, in rock and roll USA. In the shadow of the tallest building, I vowed I would break away. Listen to the Sunday actors,
But all they would ever say, that you can't get away from it. No, you can't get away. No, you can't get away from it. No, you can't get away. City sidewalks, coldness at every turn. Knew I had to find the exits, I never ever would return. Scoffed at the prophet's omens that said I would live to learn that you can't get away from it. No, you can't get away. No, you can't get away from it. Can't get away. Stopped in a sleepy town, left my change and walked out. I didn't even turn around. What they were getting next to was that old familiar sound that you can't get away from. No, you can't get away. No, you can't get away from. No, you can't get away. In a hotel room in Amsterdam, on a wild and windy August night, as a cloud passed over a cold moon, my heart was seized with terror and fright. Seeping up through the floorboards, coming in through the walls, coming in through the doorway, ringing up and down the halls. That you can't get away from it. No, you can't get away. No, you can't get away from it. No, you can't get away. No, you can't get away. No, you can't get away. No, you can't get away.
Ça, c'était Sixto Rodriguez, Can't Get Away, je pense que vous l'aurez entendu, il ne peut pas laisser là, il ne peut pas partir. J'ai été cueillir dans la collection Tract de Gallimard un nouvel opus de Pascal Horry, rien à voir avec moi, je vous rassure, Pascal Horry, c'est un de nos académiciens, c'est aussi un de nos historiens, histoire contemporaine, spécialiste de la politique. Il s'est fait connaître avec un petit essai fort instructif au Point, aux éditions du Point, en collection Point, Histoire, les collaborateurs. Vous verrez peut-être le rapport avec ma petite chronique. Ici, c'est ce cher vieux pays, une petite tapette derrière la tête de la démocratie française, comparée assez adroitement avec la démocratie suisse, entre autres. Voilà.
L'identification initiale de la Suisse et le mythe qui en sortit, costumé en Guillaume Tell, dit tout. Elle met en scène une alliance entre communautés rurales qui se révèlent capables de résister à rien moins que le Saint-Empire, autrement dit, l'institution politique qui est, au moment où se situe le mythe, la plus prestigieuse de toute la chrétienté. Cette alliance de communautés se renforce politiquement et s'élargit géographiquement de siècle en siècle, se transforme en confédération surmonte les fractures religieuses et les divisions linguistiques qui ont mis ici et là plusieurs États au bord du gouffre, parfois jusqu'à les y faire tomber, et elle se paie le luxe, au milieu du XIXe siècle, d'une petite guerre civile qui n'aura duré que 26 jours et coûté 93 morts, à partir de laquelle les vainqueurs, des démocrates libéraux, peuvent donner au système politique suisse la forme qu'il a encore un siècle et demi plus tard. Au moment où j'écris, aucun État au monde ne peut rivaliser avec la Suisse sur l'ensemble des critères qui définissent la démocratie libérale. Le premier trait spécifique du système politique suisse a de quoi frapper de stupéfaction un citoyen français normalement constitué. Ici, aucun chef d'État, même inaugurateur de chrysanthèmes. Ce qui en tient lieu est un collège de 7 membres, le Conseil fédéral, associant depuis 1959 4 partis politiques représentant de fait la majorité des votants aux élections fédérales, qui ont lieu tous les 4 ans depuis novembre 1848. L'exécutif suprême est donc non seulement collectif, mais pluriel. La formule magique de 1959 conduisant des partis dont certains n'auraient jamais accepté de s'allier à partager les responsabilités du pouvoir. On comprend dès lors que ce qui s'apparenterait à un gouvernement se retrouve de fait déplacé vers le Parlement, Assemblée fédérale, qui, d'une part, élit l'exécutif ou les juges fédéraux, mais, de l'autre, pratique un jeu sophistiqué de coalition à géométrie variable, conduisant à des majorités législatives texte par texte, voire article par article. On aura remarqué au passage que les deux dates les plus importantes dans l'histoire politique suisse moderne, 1848 et 1959, sont contemporaines des deux changements de régime français, mais avec des effets radicalement opposés. En France, l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte et le retour au pouvoir du général de Gaulle. Voici donc, dira-t-on, le pays qui a poussé le plus loin au monde la logique de la démocratie représentative. Tout à fait. Mais il y a plus fort. C'est ce même pays qui, concurremment, a poussé le plus loin au monde la logique de la démocratie participative. 4 fois par an, ses citoyens et citoyennes sont appelés à se prononcer souverainement sur des référendums ou des initiatives populaires. 550 textes examinés au long des 100 dernières années. Tout ce qui précède prend donc tout son sens quand on considère que depuis ses origines médiévales, la structure politique suisse a été successivement confédérale, puis fédérale, le seul épisode de pouvoir centraliste correspondant, ce qui ne surprendra personne, à une période d'hégémonie française, à savoir 1798-1802. Depuis le XIVe siècle, le cœur de l'identité politique suisse continue à se situer au niveau de canton, conçu comme un État, stand, souverain, puisque disposant de ses propres constitutions, gouvernements, parlements et juridictions, situés à égale distance des communes et du pouvoir fédéral.
Jardin suspendu se referme. Je vous remercie d'y avoir fait une petite visite. Le texte, c'était Pascal Horry de l'Académie française. Ce cher et vieux pays, c'est la collection Tract de Gallimard et ça coûte 3,90 €. La musique, c'était Sixto Rodriguez, Can't Get Away, l'album 1971. Il me reste à remercier Sophie Lefebvre qui non seulement a lu mais nous a fait comprendre le texte de Pascal Horry. Il me reste à remercier Landy Unger, l'ange musical des jardins suspendus, et surtout Nicolas qui réalise tout ça. Ciao ciao.
você, quem é que manda em você?